on va parler de francophonie. On va en parler donc avec notre invité Leyla Slimani, qui représente le président Macron en matière donc de francophonie. Et avec elle, nous allons voir quels sont les chantiers à entreprendre, ce qu'il faut terminer, la manière en tant que romancière et en tant que lauréate du prix Goncourt 2016. Vous représentez aujourd'hui le français, son usage dans le monde. On va écouter un autre écrivain, Leyla Slimani, Alain Mabankou, lequel prône une francophonie de la diversité culturelle contre une francophonie institutionnalisée.
Le problème de la francophonie, c'est aussi l'absence de cette diversité culturelle. On a toujours l'impression que la francophonie, c'est le siège de la pensée française. Mais il faut inclure toutes les diversités, toutes les tendances. La francophonie, ce n'est pas seulement la langue française, c'est aussi les cultures de ces peuples qui ont en partage l'utilisation de la langue française. Dans la plupart de ces pays francophones, on mise toujours tout sur l'économie, où on pense toujours que l'économique doit prévaloir sur le culturel. C'est la plus grande erreur, la plus grande tare de la francophonie, c'est de magnifier la culture dans les paroles et de l'oublier dans les actes.
Votre réaction, Leyla Slimani ?
Il a totalement raison. Je pense qu'il a vraiment, il met le doigt sur quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire sur la valorisation de la diversité. Il ne faut pas penser la francophonie comme une espèce de chose où la France serait au centre, on aurait cet hexagone qui serait central, et puis une périphérie comme ça, un peu ghettoisée, dans laquelle il y aurait des artistes qui parleraient français. Ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la modernité de la francophonie, c'est de penser à un espace divers dans lequel cette langue fait lien, et dans lequel il y a des artistes de même qualité, de même force, et dont la langue finalement permet justement de faire émerger des artistes qui pourraient avoir du mal. Donc diversité, décentralisation, il a absolument raison.
Pourquoi avez-vous accepté cette mission, Leyla Slimani ? Comment vous êtes-vous dit que finalement vous aviez quelque chose à apporter à la francophonie et aux Français ?
C'est une excellente question, d'ailleurs qu'on ne m'a jamais posée, mais c'est une excellente question. Et bien, j'ai accepté parce qu'un jour, quand je venais de sortir mon livre, Sexe et mensonges, j'ai fait une émission à...
Faut rappeler...
Voilà, Sexe et mensonges qui parle de la sexualité des femmes au Maroc. J'ai fait deux émissions à la suite, une émission en France et une émission au Maroc. En France, je me suis retrouvée dans une émission avec quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi vous écrivez en français ? Et finalement, vous écrivez en français, mais si vous écrivez sur le Maroc en français, ça n'a aucun sens, niant complètement le fait qu'au Maroc, il y a une culture francophone et que le Maghreb est une région du monde plurilingue, où on parle plusieurs langues. Et ensuite, je suis arrivée au Maroc, de nouveau, j'ai présenté le livre, et je me suis retrouvée face à un journaliste qui m'a fait le même reproche. Mais finalement, vous êtes une colonisée, vous êtes une traître, vous êtes une occidentalisée. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'en 2017, en 2018, on soit obligé encore de se justifier quand on fait le choix d'une langue et quand on vit dans un monde qui est à ce point globalisé, ouvert, où on parle plusieurs langues. Moi, le français, c'est ma langue. Et je trouve ça triste qu'on soit encore dans ces vieux schémas. Donc j'ai envie de pousser et de soutenir une vision différente, désidéologiser de la langue, où on peut parler plein de langues en même temps sans avoir constamment à se justifier. Donc je crois que c'est ça qui m'a vraiment convaincue.
Surtout qu'au Maroc, par exemple, à l'Alliance française, à Casablanca, que l'on connaît tous les deux, il y a une manière très vivante de parler français.
Mais bien sûr, il y a une manière très vivante. Et puis il y a, vous savez, moi je crois que c'est très important dans ces pays-là, comme d'ailleurs partout dans le monde, de lutter aussi contre la monoculture, contre ceux qui vous disent que vous n'avez qu'une langue, qu'une culture, que vous devez regarder le monde d'une seule façon parce que sinon le reste c'est pas bien, c'est haram et tout. Je pense que c'est très très important de permettre d'avoir des maisons comme ça où vous pouvez ouvrir
haram,
la porte.
Il va falloir que je traduise, sinon on va dire que...
Haram, péché, qui n'est pas...
Impur.
Impur, voilà, qui n'est pas dans la norme. Donc je pense que c'est très important justement d'avoir des espaces comme ça où on peut ouvrir la porte et découvrir autre chose, lire une bande dessinée, regarder un film et ouvrir son appétit pour l'autre. Pour moi c'est ça la langue, c'est l'appétit de l'autre.
Mais de toute façon vous pourriez écrire en arabe, non ?
Non, je ne pourrais pas écrire en arabe parce que je vais vous dire, l'arabe classique, je suis très très mauvaise. Comme dans tous les pays du Maghreb, nous, notre langue, c'est l'arabe dialectal, c'est la derija, c'est le berbère, etc. L'arabe classique, c'est une langue écrite qui est là, qui n'est pas véritablement notre langue.
Donc le choix d'écrire en français, il s'est imposé
d'une
manière évidente.
Il s'est imposé, tout à fait.
Est-ce que votre manière d'écrire le français, en revanche, a quelque chose à voir avec la manière dont vous avez appris le français ? Vous avez fait différents allers-retours entre le Maroc et la France. Je crois que c'est votre père qui est originaire de Fès.
C'est ça, et ma grand-mère est alsacienne, donc j'avais aussi l'allemand qui était là.
Bon, donc différentes langues.
Mais là encore, je dirais, comme l'a souvent dit Alain Mabankou, que je crois que les écrivains d'aujourd'hui, c'est une des choses peut-être propres à notre époque, nous sommes tous imbibés en réalité par plein de langues. Chaque citoyen d'ailleurs est imbibé par plein de langues. Vous-même, quand vous parlez le français, vous avez peut-être même sans le savoir de l'arabe, de l'espagnol, du créole qui est dans la langue que vous pratiquez. Et c'est ça aussi qu'il faut défendre aujourd'hui dans la francophonie, c'est d'arrêter d'être dans une langue française arrogante, excluante, qui se voudrait d'une pureté absolue. Ça n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, il faut célébrer le fait d'être ce métissage, il faut célébrer le fait que la langue française, elle se fait bousculer, elle se fait déranger, mais dans le bon sens du terme, par plein d'autres langues, et c'est magnifique.
Dans le Figaro de ce matin, il y a un petit article qui vous est consacré, qui est plutôt un article sympathique. Il est intitulé « La princesse Leïla étant son royaume ». On parle de vos différentes activités. On parle du fait que vous vous occupez de la francophonie, que vous allez présider le 44e prix du livre Inter. Et puis, on explique aussi qu'il va y avoir le 14 mars prochain la parution d'un bel album intitulé « Figure d'écrivain de Jean d'Ormesson à Leïla Slimani ». Qu'est-ce qui vous rapproche de Jean d'Ormesson, Leïla Slimani ?
Bah évidemment, la littérature, l'amour de la littérature, du roman. Mais ce que je trouve très beau avec Jean d'Ormesson, c'est que c'est quelqu'un qui était vraiment dans la transmission. C'était pas du tout quelqu'un qui était arrogant et qui, lorsqu'il voyait un jeune écrivain, pouvait se sentir, bon, évidemment, il se sentait pas menacé, c'était Jean d'Ormesson, mais il ne le faisait jamais sentir, et au contraire, il avait ce goût pour les autres, pour la nouveauté, pour ceux qui vont apporter une nouvelle chose. Il était très curieux des autres, et moi, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut célébrer aussi. Cette curiosité qu'il peut y avoir entre les générations et cette envie de transmettre d'une part et d'apprendre d'autre part.
Et le fait, justement, qu'il incarnait, alors effectivement, une grande curiosité, c'était quelqu'un qui posait énormément de questions à ses interlocuteurs, mais aussi une forme quand même très classique de la culture. Il était publié chez Gallimard, comme vous. Justement, ce fait-là, l'idée que vous êtes aujourd'hui une auteure Gallimard, ce qui peut incarner une forme de classicisme à la française, c'est quelque sorte un éditeur qui incarne véritablement les lettres françaises. Qu'est-ce que ça vous inspire, Leïla Slimani ?
Mais je crois qu'il faut pas que ça fasse peur. L'essentiel, c'est que même si effectivement on est dans ces grandes maisons, que c'est classique, il faut pas que ça fasse peur. Et puis il faut aussi s'ouvrir, là encore, il faut décentraliser. C'est-à-dire que ces grandes maisons, ce sont des grandes maisons parisiennes qui sont extraordinaires, qui ont une histoire et un catalogue extraordinaire. Mais je trouve qu'il est dommage aujourd'hui que justement les auteurs du monde francophone soient souvent obligés de passer par Paris, de passer par ces maisons pour se faire connaître et pour même pouvoir revenir dans leur pays. Et c'est vraiment très très dommage, et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui les éditeurs français se penchent sur d'autres modèles, les modèles anglo-saxons, mais même le modèle lusophone, ces modèles qui ont permis de décentraliser. Là, j'étais en Inde par exemple. En Inde, on peut publier dans son pays en anglais et être très célèbre dans son pays, réussir vraiment à se faire connaître. C'est important de réfléchir à ces questions.
Justement, qu'est-ce que vous avez appris en Inde, dans les autres pays? Je sais que vous avez fait une tourner Leïla Slimani pour voir dans différents pays comment ça se passait. Qu'est-ce que vous avez appris et constaté sur place ?
D'abord, j'ai constaté un très très grand appétit pour la langue française, pour la culture française. Alors, notamment en Asie, c'est assez incroyable. En Inde, il y a aujourd'hui 500 000 apprenants de français. En Chine, il y a un très très grand goût pour la langue française, qui n'est pas seulement un goût de la France, comme on le croit souvent. C'est pas seulement la gastronomie, l'amour et le football. C'est aussi l'amour de l'Afrique et l'intérêt pour l'Afrique. On apprend le français aujourd'hui en Chine pour aller s'installer en Afrique. Donc c'est là aussi où on voit la diversité de ce monde francophone, et on voit aussi que la langue française, ça n'est pas seulement la langue de l'Hexagone, c'est une langue africaine, la langue française. Et donc ça, c'était très intéressant, voir aussi en Corée le grand intérêt qu'il y a aujourd'hui pour la langue française en Corée, qui est apprise de plus en plus, qui est enseignée à l'université, notamment dans les grandes universités de femmes à Séoul. Donc c'est passionnant de voir en fait surtout ces histoires individuelles.
Vous avez eu une oreille et un œil d'écrivain, Leïla Slimani, dans ses différentes manières de parler français, avec donc, comme vous le dites, un creuset local. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez appris aussi peut-être en matière de transformation de la langue?
Je crois justement, c'est tout à fait vrai ce que vous dites quand vous lisez Kourouma, Laboutansi, quand vous lisez Driss Schraibi, Tahar Ben Jelloun. C'est une langue française qui est transformée, qui est créolisée. C'est une langue française qui est influencée par d'autres langues. Et ce que je trouve triste, c'est que ce sont des auteurs qui sont insuffisamment lus aujourd'hui, notamment dans les programmes scolaires. Et je trouve ça pas normal qu'un jeune lycéen qui vient d'avoir son baccalauréat soit incapable de vous citer des auteurs autres que les auteurs hexagonaux, patrimoniaux. Il faut enseigner les auteurs francophones à l'école.
Par exemple, qui est-ce que vous introduiriez? Parce que bon, il y a quand même des auteurs francophones qui sont devenus classiques, Senghor par exemple.
Aujourd'hui, mais Senghor n'est pas étudié. Hein. Vous dites qu'ils sont devenus classiques. Il y a vraiment... Allez demander à des écoliers,
de
ils
temps,
ne connaissent pas.
De mon temps,
ah bah, de votre temps peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça n'est plus le cas.
Et alors justement, qui est-ce que vous tenteriez d'introduire?
On a vraiment le choix entre Ampateba, entre Assia Djebbar, entre Amine Malouf, par exemple, grand écrivain libanais francophone, qui a écrit Léon l'Africain, c'est un roman d'aventure, un roman absolument, absolument extraordinaire. Je pense que beaucoup d'écoliers se reconnaîtraient dans ce texte, qui est un texte en plus qui est un texte sur la tolérance, sur un autre Maghreb, un autre monde arabe, un autre monde musulman qui a connu son âge d'or, qui a connu cet amour de la diversité. Donc je pense que c'est très 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 important d'enseigner ces auteurs-là.
Mais alors il y a des choses frappantes. Par exemple, en Algérie, le fait qu'il y ait aujourd'hui une pléthore d'excellents écrivains francophones, de Kamel Daoud à Boualem
Sansal. De très bons éditeurs aussi.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est quand même étonnant qu'il y ait aujourd'hui une école, par exemple, algérienne de l'écriture française, qui est donc aujourd'hui des auteurs qui ont façonné le français à leur manière, avec une perspective qui est une perspective évidemment différente, puisque ça n'est pas celle que l'on pourrait avoir lorsqu'on a derrière soi l'histoire française, mais ils ont à la fois une partie de l'histoire post-coloniale et de l'histoire algérienne.
Mais moi, en réalité, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, et je dirais même que finalement, la langue française, elle est à nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement, il y a cette question coloniale, et la francophonie, elle rime encore dans l'esprit de beaucoup de gens avec colonie. Et il ne faut pas nier le fait que la langue française, elle est venue, notamment en Afrique, par la colonisation. Mais aujourd'hui, cette langue, elle est à nous. Et aujourd'hui, on n'a plus à se justifier de l'utiliser. C'est pour ça que je vous disais que la langue française, aujourd'hui, est devenue une langue africaine. Et je pense que ce serait dangereux de culpabiliser ceux qui l'utilisent en leur donnant l'impression qu'en l'utilisant, ils sont complices de cette colonisation ou de cet impérialisme, etc. Donc moi, ça ne m'étonne pas, parce que la langue française est devenue une langue de poétique en Algérie, et de très très grands auteurs en font des textes absolument, absolument magnifiques, et j'espère que ça va continuer comme
Quels
ça.
Quels sont les autres pays? Alors, on a parlé donc des différents pays parfois inattendus, puisque la Corée, effectivement, on sait peu que...
Mais j'étais en Tunisie aussi également, alors c'était très très intéressant. Ils viennent d'ouvrir des alliances françaises en Tunisie. Il n'y avait plus d'alliances françaises en Tunisie depuis 1948, si je ne me trompe pas, et c'était très très émouvant, parce qu'ils ont inauguré les alliances françaises, et il y avait un monde pas possible. Il y avait plein de jeunes qui étaient très très heureux d'avoir cet espace-là dans lequel ils allaient pouvoir lire des livres, emprunter des DVD pour pouvoir regarder des films, dans lequel ils allaient pouvoir avoir des cours de français. Et ensuite, ce qui était très intéressant aussi, c'était que les Tunisiens disaient: on veut apprendre le français, on veut accueillir des étudiants subsahariens chez nous pour apprendre aussi le français. Donc, voir aussi comment cette langue peut être un facteur d'intégration sur un continent. Ça n'est pas seulement une langue qui va du nord vers le sud, il faut arrêter avec ces schémas. Voilà. C'est aussi une langue qui va du sud vers le sud, qui permet le lien. Moi, quand je vais marocaine au Sénégal, je parle le français avec mes amis sénégalais. Et c'est intéressant aussi de voir que c'est une langue qui fait du lien sur ce continent aussi.
Bon, il y a aussi en Tunisie une dimension assez politique dans le fait de parler français.
Oui, mais il y a cette dimension politique. Je parlais notamment avec un éditeur qui me disait: il faut qu'on continue à parler français, parce qu'il faut qu'on combatte aussi tous ceux qui ne veulent plus qu'on parle français.
Qui sont ces gens?
bah, ce sont les plus conservateurs, ce sont les islamistes à qui vous parfois vous posez une question en français, qui parlent très bien français et qui veulent pas vous répondre parce qu'ils considèrent que cette langue, c'est la langue de l'autre, c'est la langue de l'Occident, c'est une langue mauvaise. Et tous ces éditeurs-là me disaient, s'il vous plaît, continuez à ouvrir des alliances parce qu'il faut, mais pas seulement des alliances françaises d'ailleurs, il faut aussi qu'on parle l'anglais, il faut aussi qu'on parle l'espagnol. Moi, je suis pas du tout dans une vision monolithique et justement impérialiste et arrogante, c'est le français. Non, il faut le plurilinguisme, il faut qu'on parle le plus de langues possible.
Mais alors, dans ces conditions, il y a une forme d'alliance objective entre les islamistes et ceux qui considèrent que le français est la langue du colonisateur ?
Non, je crois pas, ce serait vraiment de mauvaise foi de dire ça, mais je dis à ceux qui n'arrêtent pas de répéter que c'est la langue du colonisateur, de faire attention, de ne pas nourrir, sans le vouloir, de manière vraiment sans le vouloir, des discours qui sont des discours complotistes, défaitistes et des discours dangereux pour la jeunesse. Parce que est-ce qu'on a que ça à offrir aux jeunes aujourd'hui ? Leur dire finalement n'apprenez pas des langues étrangères parce que ces langues, ce sont les langues de l'Occident, ce sont des langues de gens mauvais. Je crois que c'est un peu triste d'avoir que ça à leur offrir et puis finalement de culpabiliser tous ceux qui ont envie et qui ont l'appétit, comme je le disais, de l'autre, de les culpabiliser en leur disant vous êtes des vendus. Je pense qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Les gens ont envie de respirer, ils ont envie de se mélanger, ils ont envie de se connaître, de rire ensemble. Et c'est ça qu'il faut soutenir aujourd'hui.
Et du coup, on a effectivement un français qui résiste plutôt bien, même mieux que bien, à l'anglais en Tunisie, au Maroc également.
Ben, c'est pas seulement qu'ils résistent, mais c'est qu'ils vivent ensemble. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on avait cette vision où c'était la guerre, on était dos à dos. Moi, je crois pas. Je crois qu'on vit ensemble. Et j'ai rencontré justement des jeunes qui, en apprenant l'anglais, une fois qu'ils avaient bien appris l'anglais, eh ben, ils avaient envie d'apprendre le français. Ils se sont rendus compte qu'apprendre une langue, c'était pas si compliqué. Une fois qu'ils ont appris le français, ben, ils ont eu des petites notions d'italien. Donc je pense que finalement, plus on apprend de langue, plus on apprend de langue.
Léla Slimani, la romancière, sera en notre compagnie aux environs de 8h20. On continuera à parler de la francophonie, de l'organisation internationale de la francophonie, voir quelles sont les structures qui se déploient. Différentes polémiques également, une polémique autour d'un théâtre, le théâtre du Tarmac, et puis également la manière dont le français vit dans ses différentes formes d'expression. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes, Léla Slimani, il est 8h sur France Culture.